Et j'ai réfléchi par rapport au thème. Et là, j'ai eu la conviction de parler sur une pensée. C'est vrai que chaque jour, nous sommes confrontés avec un tas de pensées qui traversent notre tête, des bonnes, des moins bonnes, des mauvaises, et je dis qu'il faut des pensées qu'on peut appeler neutres. Et c'est vrai que des fois, ces pensées sautent du coq à l'âne, des fois elles nous harcèlent, nous accaparent, nous pèsent, nous encouragent ou nous réjouissent. Et bien souvent, je me dis, mais heureusement que sur mon front, là, il n'y a pas un petit écran où tout le monde pourrait lire mes pensées. Mais j'essaye de vivre de plus en plus comme s'il y avait un écran. Mais je vous dis franchement, c'est un sacré défi. Bon, je pense pas seulement pour moi, je pense pour tout le monde. Mais Dieu, lui, il nous connaît. Il connaît toutes nos pensées. Et c'est vrai que la faculté de penser, ça vient de Dieu. Parce que nous sommes créés selon l'image de Dieu, donc c'est quelque chose très très positif. Dieu a la faculté de penser, il pense, et la parole nous en parle. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées humaines. Et je trouve que c'est aussi très très important de nous le rappeler. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et le psalmiste dit en psaume 92, que tes œuvres sont grandes. Ô Éternel, combien profondes tes pensées. Au psaume 139, nous lisons que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien profondes tes pensées. Et à la création, Dieu a donné un cœur à l'homme. Et là, je ne parle pas seulement de la pompe, hein, mais dans la pensée hébraïque, le cœur veut dire c'est le siège de la pensée, c'est le siège de la réflexion, c'est aussi le siège de nos émotions, de l'intelligence et de la volonté. Et penser en hébreu veut aussi dire « je lis dans mon cœur ». Donc, une pensée est une lecture ou peut être une lecture de notre cœur. Penser, c'est on se dit, on se parle et on communique. Mais à la chute, nous avons perdu la capacité de penser d'une manière juste. Là, le péché a pris le dessus dans nos pensées, dans nos actions, dans notre intelligence. Et nous lisons avant le déluge, les pensées de l'homme déchu se portent tous les jours vers le mal. Genèse 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, à tel point qu'il regrette d'avoir créé l'être humain, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Et là, la déchéance a atteint son comble. Il fallait que Dieu intervienne pour préserver le reste de l'humanité, pour ne pas compromettre son plan de sauvetage pour l'humanité en Jésus-Christ. Et quelque chose qui est aussi intéressant, mal en hébreu, c'est rak. C'est mal ou mauvais. C'est écrit de deux lettres. Si on inverse les lettres, ça donne rak. Et rak veut dire réveiller. Dieu permet des fois le mal dans le but de nous réveiller. Et ce qui est intéressant, Dieu connaît nos pensées et ne sont pas cachées devant lui. Et après le déluge, on aurait espéré, ah non, c'est un petit peu mieux, ben non. Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et le prophète Jérémie nous lance cet appel, mets-toi ton cœur du mal au Jérusalem. que tu sois sauvé. Mais jusqu'à quand feras-tu demeurer en ton sein des pensées funestes ? Il dit, oups. Et moi ? Et toi ? Il nous pose exactement la même question. Mais jusqu'à quand feras-tu demeurer dans ton cœur des pensées funestes ? Et le prophète Ésaïe nous lance cet appel à la repentance, que le criminel abandonne sa voie et que l'homme de fraude sa pensée, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. Et ça, c'est le cri de Dieu, le cri qui vient de son cœur à l'humanité tout entière, mais repentez-vous. Et c'est vrai que nos pensées ne sont pas seulement obscurcies devant Dieu, mais aussi devant notre prochain. Jésus le dit, Jésus qui connaissait les pensées des pharisiens, leur dit, mais pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Et Matthieu 15, verset 18, mais c'est ce qui sort de la bouche provient du cœur. C'est ça qui rend l'homme impur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Et Dieu connaît toutes ses pensées. Il connaît nos pensées et il les connaît même avant qu'elles nous traversent la tête. Mais il faut aussi dire que Dieu, dans sa grâce, nous fait aussi connaître ses pensées à lui. Il a mis dans nos cœurs, premièrement, la pensée de l'éternité. Il a mis aussi en nous les 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles. Et le prophète Ésaïe dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie. Et Paul dit aux Éphésiens, mais nous tous, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et nos pensées et nous étions par nature comme les autres. Mais après, il y a la conversion, il y a une transformation qui commence, il y a la sanctification, et ne s'arrête pas seulement au niveau de nos actes, au niveau de nos paroles, mais aussi au niveau de nos pensées, car tout commence par les pensées. Et Paul dit aux Éphésiens, voici donc ce que je dis, et que je j'atteste dans le Seigneur, et c'est une formule, je n'ai même pas su, c'est une formule rabbinique qui nous montre que c'est ce qu'il dit maintenant, c'est de la plus haute importance. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, car ils ont la pensée obscure. Ils sont étrangers à la vie à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il y a 2000 ans, hein, je dirais, quoi maintenant, aujourd'hui? Mais Paul continue, mais ce n'est pas ainsi. Il s'adresse à nous, à toi et à moi. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Vous êtes appelés à être renouvelés sans cesse par l'Esprit. Dans votre intelligence, le changement de nos mentalités, de nos pensées, et à revêtir encore et encore cette nouvelle créature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vie. Mais il n'y a pas seulement notre nature pécheresse qui influence nos péchés, nos pensées. Non, le diable peut aussi avoir accès à nos pensées. Peut-être je vous choque, mais c'est la vérité. On voit ça très bien chez l'apôtre Pierre. Matthieu 16, la Pierre répond à Jésus sur sa question. Qui dis-tu que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tu es heureux. Et Jésus dit, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que nous lisons juste quelques versets plus loin? Lorsque Jésus révèle aux disciples qu'il doit bientôt mourir, le même apôtre le prend à part et lui fait des reproches. Il est très spirituel, le gars. Il est très, très, très religieux, odieux, il appelle même Dieu. Odieux de plein Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et que dit Jésus? Mais Paul et Pierre, mais ça me touche. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Mais ta compassion et ton amour, oh là là, c'est touchant. Est-ce qu'il a dit ça? Ben non. Arrière de moi, Satan, car tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Là, on se dégonfle, hein? Mais ce texte nous montre notre vulnérabilité au niveau de nos pensées. Même Satan et les démons ont accès à nos pensées, dans quel but? De nous ligoter, de nous maîtriser, de nous culpabiliser, de nous rendre stériles. Car chacun de nous, c'est vrai, je ne suis pas le seul, a déjà été déjà effrayé ou choqué par des pensées mais horribles qui nous traversent la tête. L'ennemi nous injecte ses pensées d'une façon pour nous dire, pour nous faire croire que ce sont les nôtres, mais ces pensées-là viennent du père du mensonge et c'est à nous à faire un tri. Ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité. Nous devons démasquer l'ennemi par rapport à nos pensées. Et finalement, comme j'ai déjà dit, nous avons aussi le privilège, heureusement, de recevoir les pensées de Dieu, d'entrer dans ses plans, entrer dans ses projets, entrer dans ses desseins, de recevoir ses encouragements, recevoir, d'être renouvelé dans l'amour et dans l'œuvre de la recréation de l'homme sur le modèle de Jésus. Le renouvellement de notre pensée-là occupe une place importante, ou je dirais même très importante, car toute transformation prend sa source dans la pensée et de ce qu'on croit. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela nous montre que nous avons une responsabilité par rapport à tout ce qui nous traverse dans nous. Il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je dirais nos pensées, c'est le second plus grand champ de bataille existant. Le premier champ de bataille pour moi se déroule dans les airs, entre les puissances angéliques et démoniaques. Et peut-être le second plus grand champ de bataille se déroule ici, là derrière le front. Car celui qui domine nos pensées nous domine. Et c'est un combat de tous les jours. Mes chers amis, nous sommes dans une guerre. Si nous voulons ou si nous ne voulons pas, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et l'ennemi essaie tout pour nous faire tomber, de nous décourager, de nous faire peur, de nous couper de la parole, de nous couper de l'intimité avec Jésus. Il essaie de saboter nos prières. Pourquoi? Parce que chaque prière est un danger pour lui. Et il connaît nos points faibles, et c'est là où il place ses béliers. Mais en fait, il nous rend service. Parce qu'en plaçant les béliers là où j'ai des lacunes ou des fissures dans ma défense, je saurai pour où sont mes points faibles et je peux les renforcer. Vous savez, nous sommes un danger potentiel pour lui. Nous sommes des ennemis à abattre. Et s'il pouvait nous récupérer, il le ferait. Mais heureusement que nous avons Jésus. C'est lui qui intercède pour nous. Et nous sommes protégés sous sa toute-puissance. Et j'ai pris là une petite illustration d'un petit bonhomme de Lego là. C'est moi, c'est toi. Et là, j'essaie de le tenir plus ou moins. Et il est entouré par la porte. Moi, ça ne voit pas très bien. Là. c'est mon petit bonhomme. Et là, ça représente la protection de Dieu. Et c'est une vérité. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Oui, mais c'est l'intimité, il fait la peur. Mais là, nous devons rester justement attachés dans cette foi. Et c'est là qu'il ne peut pas nous atteindre. Et je pense que chacun de nous a déjà eu des attaques au niveau parole, au niveau pensée, même au niveau physique. Mais franchement, là, sans Jésus, nous ne sommes rien du tout. Et par rapport à nos pensées, nous ne sommes pas seulement la petite balle de ping-pong entre le bien et le mal. Nous sommes responsables de nos pensées. Nous pouvons les accepter, nous pouvons les refuser. Et maintenant, par rapport à ce qui suit après, j'ouvre une parenthèse. Ça s'est adapté pour des moments où nous ne sommes pas en crise. Parce qu'il peut y avoir des moments où nous sommes en crise, perte, divorce, tout ce que vous voulez. Là, c'est différent. Mais simplement, là, je mets l'accent sur le chrétien comme toi et moi, qui ne sont pas dans une situation de crise. J'ai vraiment eu à cœur de le préciser, parce que ça peut être un petit peu cru. Alors, on a dit, soit nous les acceptons, soit nous les refusons. Et ça, c'est à nous à le faire. Jésus ne va pas le faire à notre place. Le tri nous appartient. C'est-à-dire, ça c'est la vérité, ça c'est un mensonge. Et ensuite, Jésus va faire le reste. Nous devons apprendre à discerner. La parole nous aide et nous éclaire, et le Saint-Esprit nous guide pour commencer à faire le bon tri. Et là, il y a un catalogue, je l'appelle ça un catalogue négatif, mais qui nous aide, et plus tard, on verra le catalogue positif. Toute pensée concernant l'incrédulité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, discorde, jalousie, ensuite et ainsi de suite, sont à rejeter. Et c'est vrai que nous devons apprendre à prendre nos pensées au sérieux. Car chaque pensée peut être soit une attaque de l'ennemi, soit un appel de Dieu pour accomplir sa volonté. Et quelque chose que je trouve aussi important, la première pensée n'est pas encore péché. Mais si nous nourrissons cette pensée-là, doute, rébellion, peur, alors là, ça devient péché. Luther disait, je ne peux pas empêcher que des corbeaux volent au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher à faire leur nid sur moi. Je ne peux pas empêcher complètement que des mauvaises pensées me traversent l'esprit. Je ne peux pas les contrôler. Je ne peux même pas les combattre avec mes propres forces. Et là, il y a trois sources principales. D'où viennent nos pensées, la chair, le diable et Dieu. Et à chaque pensée, essayons de reculer un petit peu. Réfléchir avant d'agir. Réfléchissons d'abord et demandons le discernement concernant la provenance de ces pensées. Est-ce qu'elle vient de l'ennemi ou est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce un mensonge ou est-ce une vérité? Et nous savons que l'ennemi transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Il essaie de semer le doute, essaie de semer la peur, essaie de nous mettre les pieds dans des croche-pieds. Il essaie de créer en nous l'incrédulité, la rébellion. Tandis que la vérité est tout ce qui est écrit dans la parole, toute l'importance de la lire, de la méditer, de la savourer, de la digérer, de la connaître et d'y obéir. Si cette pensée vient de Dieu, elle va nous peut-être faire un petit combat parce que la chair est là qui résiste contre la volonté de Dieu, ça on connaît. Mais à la longue, si cette pensée vient de Dieu, elle va nous procurer la paix, la joie, la vie, le courage, la force. Ces pensées nous rapprochent de Dieu et créent en nous un bien-être au niveau âme, au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau du corps. Par contre, si ces pensées viennent de l'ennemi, elles ont comme but de semer le doute, de réveiller en nous des peurs ou de la culpe ou la fausse culpabilité. Le découragement, l'incrédulité, la rébellion nous poussaient envers des envies de suicide, finalement pour but la mort. Donc ces pensées nous éloignent de Dieu et créent en nous un mal-être. C'est du poison pour notre esprit, c'est du poison pour notre âme et c'est du poison pour notre corps. Et une fois les pensées ont fait mouche en nous, et ça arrive, ces pensées nous prennent captifs. Et si nous continuons à entretenir ces pensées négatives, continuons à y croire, en laissant la porte grandement ouverte, ces pensées vont vite déclencher des peurs et des angoisses en nous. Ça commence souvent par la pensée, et si on entretient ces pensées, ça déclenche des peurs. Alors s'il y a des peurs, s'ils sont là, nous avons une tendance de chasser ces peurs. Non, c'est nous sommes invités à changer nos pensées, de changer ce qu'on croit, et généralement, les peurs vont disparaître. S'ils ne disparaissent pas, Dieu nous donne d'autres armes pour y remédier. Et vous savez, c'est toujours plus facile de stopper un petit ruisseau, de stopper les débuts qu'un grand fleuve qui emporte tout. Mais merci Seigneur, il peut aussi stopper les grands fleuves. Et rappelons-nous, l'ennemi est un menteur, il nous ment de A à Z. Il nous présente souvent que des demi-vérités. Bref, nous réalisons que nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi. Bonjour, Marie. En ayant cru à ces mensonges qui nous ont envoyés au travers de nos pensées. Et là, nous avons deux choix. La première, c'est laisser aller. Ignorer que nous avons une responsabilité face à des pensées qui traversent la tête. Nous nous déresponsabilisons. Ou bien nous sommes tellement paralysés, tellement intimidés, que cela nous empêche de réagir d'une manière juste et de fermer les portes qu'il faut fermer. Ou bien nous sommes dans l'ignorance, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu es dans l'ignorance. En tout cas, j'essaie de m'exprimer clairement. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ma foi, on se plaint, nous accusons Dieu. Nous accusons Dieu de ne pas intervenir. On a l'impression qu'il ne nous aime pas. On se plaint et nous trouvons que nous ne méritons pas un tel sort. C'est injuste. Vraiment, on entre dans cette attitude de victime et nous commençons à tourner en rond. Jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. Jusqu'à ce que nous voulons entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Le deuxième choix, c'est de réaliser que nous avons une responsabilité. C'est de réaliser que nous avons laissé une porte ouverte, que nous avons, je veux dire, péché en croyant davantage aux mensonges de l'ennemi au lieu de croire à ce qui est écrit dans sa parole, de croire aux promesses. Et la toute bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné des moyens, il nous a donné des armes pour s'en sortir. Et nous ne devons pas rester esclaves de nos pensées. De réaliser que nous allons donner plus de crédit à l'ennemi que de croire à la vérité qui nous libère, cela nous mène automatiquement à la repentance. Mais combien de fois avons-nous déjà offensé? Et je vous dis, nous l'offensons encore. On va se faire encore piéger par l'ennemi, de lui croire davantage qu'à Dieu. Et le seul moyen, c'est de faire demi-tour. C'est la repentance. Et de prendre ses décisions. Maintenant, je prends les promesses de Dieu au sérieux. Maintenant, je veux croire aux promesses de Dieu. Oui, je le veux. Ça, c'est ma décision. C'est ta décision et c'est la mienne. Comme je l'ai déjà dit, même pas Jésus peut faire quelque chose. Si je ne m'accorde pas à lui, je ne m'accorde pas à ses voix. Car il respecte notre choix. Et c'est une, là, c'est aussi important d'avoir cette décision ferme. Et j'y tiens. Même si on voit la pagaille dans nos vies, même si on voit la pagaille dans nos pensées, ou la pagaille dans nos sentiments. Seigneur, toi, tu l'as dit, donc je le crois. Et rappelons-nous, nous pouvons plaire au Dieu que par la foi. En disant, oui, je crois à ta parole, qu'est-ce qui se passe? Cette promesse, je donne finalement le feu vert au Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est là que nous avons une autre bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Car Dieu est notre meilleur allié, c'est lui qui combattra à nos côtés, qui combattra pour nous, c'est comme un chasse-neige qui nous ouvre la route. Et je vous dis, quand Dieu se lève, ça déménage, ça oui. En croyant sa parole, je donne le feu vert au Saint-Esprit. Parce qu'il me communique, comme ça il va me communiquer sa paix. C'est le Saint-Esprit en moi qui me communique sa foi, sa joie, sa force. Et ainsi Jésus calmera mes tempêtes intérieures, car l'ennemi doit lâcher. Et il lâchera. C'est écrit, si vous résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Et encore une petite pensée concernant la foi, ce n'est pas un produit naturel, ce n'est pas un produit bio, hein. C'est un produit surnaturel, c'est un produit spirituel. Si je réalise un manque de foi, et ce n'est pas une catastrophe, franchement, ça arrive, et que faire? Tout simplement l'avouer à Dieu et lui demander, Seigneur, j'aurais besoin encore d'une bonne portion de foi supplémentaire. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Quel plaisir il va répondre à tout ça. Enfin, enfin qu'il réalise quelque chose. Avec plaisir, il exauce de telle demande. Et c'est encore une fois, c'est son esprit en nous qui va nous communiquer cette foi supplémentaire. Encore une fois, la décision de croire ou de ne pas croire m'appartient. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est ma décision avec les conséquences qui vont avec. Si je décide de douter, si je décide de rester dans l'ignorance, si je décide de croire au mensonge, ben, c'est ma responsabilité. C'est mon choix. Il ne faut pas prévenir, se plaindre. Comme je l'ai déjà dit, Dieu respecte mon choix et ma décision. Et là, il ne peut pas intervenir. Et son esprit ne pourra rien faire jusqu'au moment où je me repens et je change d'avis. Par contre, si je décide de croire aux promesses de Dieu, l'esprit de Christ va agir puissamment. Un peu de pratique maintenant, parce que la théorie, c'est une chose, la pratique, c'est une autre. Analysons quelques pensées. Une pensée qui me vient, mais crois-tu que Dieu t'aime encore après tout le mal que tu as fait? Réfléchissons avant d'agir. Eh bien, d'où ces pensées, selon vous? Pourquoi? Exact. C'est refusons d'y croire à cette pensée-là, en disant « Dieu m'aide éternellement », c'est en Jérémie 31, et je crois que Dieu m'a justifié, c'est fait. C'est quelque chose qui nous dépasse. Il nous a justifié une fois pour tout, c'est-à-dire même mon dernier péché est déjà y compris là-dedans. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas une invitation à pécher encore plus, ce n'est pas ça. Hein. C'est simplement, Dieu m'a justifié par le sang de Jésus, Romains 5. Une autre question. Et tu ne vois pas quelle misère tu es. De toute façon, tu tombes toujours en rang. Tu n'as rien compris. Oh, Dieu t'a abandonné. Là où c'est. Et bien d'où cette pensée? De l'ennemi. Soit que nous répondons, soit que nous ne répondons pas. Il est écrit que Dieu ne nous abandonne jamais. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Ou bien, nous avons des soucis financiers. faire peur. C'est pas évident du tout. C'est un rude combat. Et là aussi, je dois choisir, je dois me décider. Est-ce que je laisse la porte du doute ouverte ou bien je prends la décision de croire, à vous enseigner de moi parce que c'est pas évident, de croire aux promesses qu'il me dit, de pourvoir à tous nos besoins. Et c'est pas facile. Ou tout d'un coup, on a un coup de peur. Franchement, ça m'arrive, je suis des fois peureux. Et c'est une arme redoutable. Et Dieu sait que nous sommes très vite peureux. C'est pourquoi je me trouve 365 fois. N'aie pas peur. C'est-à-dire, pour chaque jour, Dieu nous donne cet ordre, n'aie pas peur. Et on oublie de préciser, ce n'est pas une option, ce n'est pas une proposition. C'est un ordre. C'est un ordre. Alors si je continue à avoir peur, je désobéis à Dieu. Si on analyse un petit peu crûment. Et notre devoir est de moins en moins céder à la peur, mais de plus en plus s'accrocher aux promesses de Dieu. Car l'ennemi continue à envoyer des flèches enflammées et nous devons apprendre à les éteindre par le bouclier de la foi. Nous ne pouvons pas progresser dans la foi si nous continuons à laisser les pensées empoisonner nos vies. Et une arme puissante contre les manigances de l'ennemi, c'est aussi une bonne compréhension de notre nouvelle identité en Christ. Nous sommes morts au péché. Notre vieille nature a été crucifiée avec Jésus sur la croix. Maintenant, grâce à Jésus et grâce à la nouvelle naissance, nous sommes devenus toutes nouvelles créatures. Nous sommes devenus un temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus un enfant du Dieu vivant qui renouvelle ses pensées et qui les accorde de plus en plus avec les pensées divines. Donc, une mauvaise pensée qui surgit, nous pouvons dire à cette mauvaise pensée, soit dégage, ou désolé, tu viens trop tard. Ben ouais, je ne suis plus le même. Ta pensée concerne ma vieille nature, mais qui est morte. Par contre, maintenant, je suis une nouvelle créature qui pense différemment. Remplissons aussi nos pensées avec un nouveau contenu. Autrement, il y a l'ego, il y a l'orgueil et tant d'autres choses qui vont prendre la place. Et nous sommes appelés à remplir le vide qui est dans nos têtes par les pensées, par les meilleures pensées. Et la meilleure pensée se trouve dans la parole qui nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est la meilleure orientation. C'est la meilleure pensée. C'est de mettre Dieu au centre de nos vies, de mettre Dieu au centre de nos pensées, de l'honorer et de le glorifier toujours davantage, y compris avec nos pensées. Examinons toutes nos pensées à la lumière des Écritures saintes, tout en sachant qu'il faut faire un tri rigoureux. Ne jouons pas avec nos pensées, car elles peuvent se transformer en actes. Prenons, s'il le faut, un fouet, comme Jésus l'a fait au temple, et après, débarrassons-nous, renversons, jetons dehors nos pensées mauvaises. Et la parole nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, et là aussi, c'est de nouveau la douceur de Dieu, c'est de nouveau la compassion de Dieu qui connaît nos cœurs, il sait où nous en sommes. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix, n'importe quelle situation, il faut peut-être un petit peu plus de paix, plus de temps, jusqu'à ce que cette paix se réinstalle. Mais cette paix va revenir. Et cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et Paul continue en disant « Reste frère ». Et là, j'arrive au catalogue positif. Avant, on a mis le catalogue négatif, ça nous fait déjà bon tri. Et maintenant, le catalogue positif resterait tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Yes! Ça, je m'y pense, oui. Tout ce qui est juste, yes! Tout ce qui est pur, yes! Tout ce qui est aimable, yes! Tout ce qui mérite l'approbation, yes! Tout ce qui est digne de louange, yes! Soit l'objet de vos pensées. Et si nous marchons, nous commençons à penser, à marcher d'une manière toujours plus juste devant Dieu, c'est un combat intense. Mais nous avons Jésus-Christ, qui est notre allié, et qui est en nous, et qui renverse toute forteresse, car c'est lui qui a toute la puissance sur l'ennemi. Et la conclusion, il y a trois principales sources d'où proviennent nos pensées, la chair, le diable et Dieu. Mais demandons à Dieu de résister dans la tentation, demandons à Dieu de nous diriger pour faire un bon tri dans nos pensées, de refuter, voire ignorer les mensonges, les doutes, l'incrédulité qui viennent de l'ennemi. Par contre, remplir nos pensées avec la vérité de la parole, tout en exprimant notre reconnaissance et notre louange. Et ainsi nous donnons de moins en moins d'espace, nous donnons de moins en moins de la place aux mauvaises pensées, aux pensées mensonges qui veulent nous détruire. Combattons le bon combat de la foi en nous appuyant non pas sur nous, non pas sur nos connaissances et tout ça, non, appuyons-nous sur l'Esprit du Dieu vivant. C'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui va faire de l'ordre dans nos pensées, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais la condition, c'est de croire aux promesses de Dieu, de croire que ce que Dieu dit est vrai, et que fidèlement, il tient ses promesses. Là, nous pouvons mettre Dieu au défi, et vous voulez voir, il va répondre. Car sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et je termine par cette vérité, le juste vivra par la foi. Si vous voulez bien. Seigneur, tu connais notre état d'âme, tu connais aussi là où nous sommes, si nous sommes dans une crise, dans un deuil, dans d'autres moyens, tu as beaucoup plus de patience et la consolation est là et nous t'en bénissons et nous nous réjouissons parce que nous avons tous besoin d'être réconfortés par toi. Mais par contre, si nous ne sommes pas dans une crise, Seigneur, apprends-nous à lutter, apprends-nous à combattre le bon combat de la foi, que nous ne sommes pas simplement une balle de ping-pong entre les mains de Dieu, entre le mal et Dieu, mais que nous avons notre responsabilité. Encourage-nous, fortifie-nous, montre-nous comment nous pouvons prendre nos responsabilités et t'apporter nos pensées auprès de toi, et c'est toi qui vas faire de l'ordre. Seigneur, aide-nous à faire le tri, de rejeter tout ce qui est mensonge, tout ce qui est une fausse culpabilité, et de nous fortifier par ce que tu dis, par tes promesses, par ta parole, et de t'honorer, parce que nous mettons notre foi en ce que toi tu dis dans ta parole, au nom de Jésus. Amen.